VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes l'Amérique et vous avec John Lindon, mais tout d'abord les nouvelles. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, aujourd'hui lundi 13 juin 2016. L'occasion de rappeler les situations dramatiques que vivent certains albinos sur le continent africain, particulièrement en Afrique de l'Est. Au Malawi, par exemple, après une série d'assassinats d'albinos, la justice a interdit début juin à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer. Pour plus de détails sur les menaces qui pèsent sur les personnes atteintes d'albinisme, écoutons la directrice de la fondation Salif Keita, Kumba Makalu Keita.
La situation en Afrique actuelle en ce qui concerne l'albinisme est très urgente, très grave, car il y a beaucoup de discrimination, persécution et même meurtre. Et dans certaines régions en Afrique de l'Est, on a vu jusqu'à 18 meurtres d'albinos depuis le début de cette année, depuis janvier au Malawi par exemple. Et en Tanzanie et au Burundi, c'est continuel. Et même il y a quelques semaines, on a parlé d'un corps mutilé qui a été trouvé au Mali, au nord du Mali, une personne atteinte d'albinisme. Donc c'est urgent qu'il y ait une mobilisation pour protéger ces personnes vulnérables.
Kumba Makalu Keita, directrice de la fondation Salif Keita, au micro de Claire Morin-Gibourg. RDC, province du Nord Kivu, l'armée congolaise a annoncé la mort de 7 rebelles des ADF Nalu et d'un militaire lors d'un accrochage à Kokola dans la région de Beni. Les détails avec Nathalie Barge.
Le lieutenant Mac Azukai, porte-parole de l'opération Sukola 1, chargée de combattre les ADF, a annoncé également 2 blessés graves dans les rangs de l'armée. Rebelles musulmans installés dans l'est de la RDC depuis 1995, les ADF sont opposés au président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et réélu en février. La MONUSCO et le gouvernement congolais les tiennent pour responsables d'une série de massacres ayant coûté la vie à plus de 600 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. Mais selon un récent rapport du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, d'autres éléments armés sont également responsables, dont des militaires congolais. Le Nord Kivu est déchiré depuis plus de 20 ans par des conflits ethniques, fonciers et pour le contrôle des ressources minières, alimentées par des rivalités entre puissances régionales.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, ajournement aujourd'hui du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée de crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts dans le pays. Le procès a été suspendu pour une semaine par la cour d'assises d'Abidjan qui juge Madame Gbagbo depuis le 31 mai. À la demande des avocats de l'accusé qui veulent étudier de nouvelles pièces versées au dossier. Les audiences reprendront le lundi 20 juin. Au Nigeria, le MEN, qui menait des attaques contre des installations pétrolières dans les années 2000, demande à l'autre groupe rebelle, dit vengeur du delta du Niger, de cesser les violences et de s'asseoir à la table des négociations. Et puis ici aux États-Unis, le président américain Barack Obama a affirmé aujourd'hui qu'il n'existait pas à ce stade de preuve claire que l'attaque meurtrière perpétrée dans le club gay d'Orlando en Floride a été commanditée depuis l'étranger. Il semble que le tireur ait été inspiré par diverses sources d'informations sur Internet, a déclaré le chef de l'exécutif américain à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche avec, entre autres, le directeur du FBI et la police fédérale, James Comey, et le ministre de la Sécurité intérieure, Jay Johnson. Pour sa part, le groupe État islamique affirme que l'attaque a été menée par un soldat du califat qui a fait 49 morts, plus le tueur abattu par la police dans un club gay. L'auteur du carnage, l'Américain Omar Siddiqui Matin, avait déjà fait l'objet d'enquête du FBI, mais il n'avait pas été arrêté faute de preuves concrètes contre lui. Par ailleurs, le président Barack Obama est frustré par l'inertie du Congrès américain contrôlé par les républicains au niveau du contrôle de la circulation des armes à feu aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, au lendemain de la fusillade meurtrière d'Orlando. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité à VO Afrique. Vous écoutez l'Amérique et vous. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale des États-Unis, au micro de présentation John Linden. Cette émission est produite par Joselle Maurice. Tout ou presque a été dit sur ce grand homme de l'histoire de la boxe qu'était Mohamed Ali. Mohamed Ali qui, en 1974, avait livré à Kinshasa ce qu'on qualifiait alors de combat du siècle. Son parcours, évidemment, et les souvenirs que beaucoup d'amoureux du ring gardent de lui sont légion. Aux États-Unis, en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, Mohamed Ali était considéré comme une légende du sport. Un homme aux grandes valeurs, tant sur le plan sportif qu'humain. The Greatest, comme on l'avait finalement surnommé, nous a quitté le 3 juin dernier à 74 ans, après un combat de 32 ans contre la maladie de Parkinson, qui finalement l'a mis KO. Mohamed Ali effectue en ce moment même son dernier voyage à Louisville. Occasion pour nous, dans l'Amérique et vous, de revenir sur cette actualité. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique, et pour nous accompagner au cours de cette émission ce soir, nous avons comme invité le premier Jean Lambernant. Jean Lambernant est journaliste camerounais très connu et respecté pour son franc-parler. Jean Lambernant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci Jean Lambert pour votre disponibilité. On sait que votre programme ce soir est très chargé. On va donc commencer tout de suite par vous. Quel souvenir vous laisse Mohamed Ali?
Disons que j'ai appris à connaître Mohamed Ali dès ma tendre enfance. J'avais à peine 12 ans en 1974 lorsque, vous vous souvenez bien, toute l'Afrique entière a bougé au rythme de ce combat dit de la jungle entre Mohamed Ali et George Foreman. Et c'est comme ça que par petites bribes, l'information s'est disséminée sur le continent tout entier jusqu'au Cameroun, dont je suis le natif. Et nous avions appris que deux grands monstres de la boxe allaient s'affronter au Congo voisin, le Zaïre de l'époque. Et nous avons tendu nos oreilles pour entendre surtout l'avant-combat avec cette phrase mémorable de Mohamed Ali: je volerai comme un lion et je le piquerai comme une abeille. Et les quelques images vidéo que nous avions reçues de quelques parents qui étaient qui disposaient d'un matériel vidéo nous ont fait voir un visage d'abord d'un homme très beau, contrairement à l'image qu'on se faisait des boxeurs. Un visage douillet, enfantin, mignon, et une carrure qui ressemblait à toutes les carrures sauf à celle d'un boxeur. C'est comme ça que nous sommes tombés éperdument de celui qui était déjà une légende méconnue de nous autres et que nous avons commencé à le suivre, même s'il faut reconnaître que le combat de 1974 figure parmi un de ses derniers grands combats.
Alors, depuis 1974, est-ce que dans le monde de la boxe, il y a eu des combats qui ont attiré autant d'attention que celui-là?
C'est vrai que chaque siècle apporte sa vérité. Après Mohamed Ali, l'Afrique est tombée amoureuse de Mike Tyson, peut-être pas dans le même style, dans un style un peu plus brutal, un peu plus, permettez l'expression, sauvage. Et puis est venu Evander Holyfield. Mais je crois que la Mohamed Alimania était plus forte parce que non seulement il combattait sur les rings, mais il disait combattre pour défendre les intérêts de la race noire. Et c'est ce révolutionnaire-là, ce rebelle de boxeur qui a enchanté les Africains et qui était tout autant emporté dans ce pourquoi il combattait. Et je crois que c'est pour ça que certes Mike Tyson était fort, était puissant sur le ring, et que Evander Holyfield était tout autant fort, mais Mohamed Ali a ajouté à son combat sur les rings une façon.